Tada, il y a un moment où on rapporte que la Torah, elle, comme le récit, il est sous forme de questions-réponses, qu'a priori, les questions, elles viennent des enfants. Et enfants, ça ne veut pas dire obligatoement des petits-enfants, ça peut être des adultes. Elles viennent des enfants qui interrogent le père, elle vient de la nouvelle génération qui interroge l'ancienne génération. Et donc, Agada, elle rapporte que on peut distinguer quatre sortes de questionnements qui sont représentés par les fameux quatre fils. Il y a quatre fils qui posent des questions. Alors, il y a, vous les connaissez, il y a le sage qui pose des questions halakhiques. Il y a celui qui ne sait pas poser des questions. Et ce qui m'intéresse plus, c'est il y a celui qui est appelé le rachat, le mauvais, le méchant, qui lui pose une question, mais il faut écouter ce qu'il dit. Il dit, Ma avoda azot lachem. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette avoda? C'est quoi ce travail que vous faites? Certains disent tout le travail que vous faites en préparation de Pessah, mais c'est surtout, c'est quoi le tout ce seder là avec différentes, on fait toutes sortes de choses, de gestes, etc., qu'on n'a pas l'habitude de faire et tout. Et surtout, ce qui est important, c'est en français, il dit, c'est quoi toute cette histoire que vous faites? Et en hébreu, il y a deux façons de dire vous. On peut dire ce que ma avoda zot lachem, ou bien l'autre mot qui veut dire vous, c'est etrem. Alors la différence, c'est que Lachem, c'est un vous exclusif, c'est-à-dire celui qui vit vous, il s'exclut de ce auquel il parle, alors que Etrem, c'est vous avec moi, vous et moi aussi. Et lui, justement, il prend la forme exclusive, il prend la forme vous et pas moi. Et donc, le rédacteur de la L'Agada, il dit, lui, s'il pose une question comme ça, il faut lui répondre en lui agaçant les dents, comme on dit, il faut que tu lui répondes tac au tac et assez durement. Et tu lui dis, la raison pour laquelle on fait tout ça, la raison pour laquelle nous faisons tout cela, c'est parce que c'est pour que je fasse tout cela qu'Hachem m'a fait sortir d'Égypte. Toi, si tu avais été en Égypte, avec ta mentalité, tu ne serais pas sorti d'Égypte. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Alors, vous savez que on dit aussi dans le cadre de tout ce qu'on dit dans le cadre de la Haggadah, on dit que Chayav Adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mimitzrayim, que l'homme doit se considérer comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Dans le texte, c'est un comme si. Comme si c'est pas tu considères que tu es sorti, mais c'est comme si tu étais sorti. Mais il y en a qui disent qu'il faut entendre non pas le comme si, mais tu dois considérer que tu es sorti d'Égypte. Donc, ça veut dire, tu dois essayer de vivre cette soirée qui devient une soirée expérience quelque part. Tu dois expérimenter la condition de celui qui est sorti d'Égypte. Alors, au moins, dans toute la mesure du possible. Alors, considérer qu'on est sorti d'Égypte, est-ce que il s'agit d'essayer de s'imaginer en égyptien, c'est-à-dire s'imaginer comme si on avait vécu à cette époque-là, on avait vécu au moment où ils sont vraiment sortis d'Égypte? Ou bien est-ce que l'Égypte en question, c'est chacun a son Égypte, quoi, quelque part. Chacun doit se considérer comme s'il était sorti de cette situation où il se sent esclave, où il se sent brimé, où il se sent dérangé de toutes sortes de manières. Il y a des gens qui pensent comme ci, des gens qui pensent comme ça. Quoi qu'il en soit, il faut au moins essayer de se mettre dans la situation d'une libération, que ce soit la libération de ce qui m'opprime, de ce qui me dérange. Essayer de penser. Qu'est-ce que je ferais? Comment je me sentirais? Comment je me sentirais quand je serais sorti de cette galère, en quelque sorte, dans laquelle je suis? Bien, comment j'aurais moins vécu la condition d'esclave, etc., et la condition de celui qui est libéré de son état d'esclave? Et une des façons, c'est donc de la raconter, cette sortie d'Égypte, comme si c'était ma sortie d'Égypte. Donc une espèce d'identification avec les problèmes qui se posaient à ce moment-là, et regarder dans quelle mesure ces problèmes se posent à moi aussi, éventuellement la traduction de ces problèmes dans ma situation concrète. Donc c'est tout un travail qui doit se faire ce soir-là. Et le travail, il nous est en quelque sorte facilité par le récit de la sortie d'Égypte, parce que les Chachamim nous ont prescrit, qui est l'espèce de minimum qu'il faut dire, avec lequel il faut s'identifier en quelque sorte. Alors, il y a des choses qui sont assez difficiles à imaginer. Certains veulent dire que ce qu'il faut, il faut raconter. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer que se sont racontés Rabbi Akiva et ses collègues qui sont occupés de la sortie, de raconter la sortie d'Égypte pendant toute la nuit? Il la connaissait depuis le jardin de l'enfant, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils se sont racontés? S'il s'agit seulement de se raconter la sortie d'Égypte, alors bien sûr, tu peux entrer dans le détail, essayer de, ah voilà, ça s'est passé comme ça, etc. A priori, on a plutôt l'impression que il faut aussi raconter les leçons, enfin, d'abord la prise de conscience. Je crois qu'il faut. C'est pas évident pour tout le monde aujourd'hui qu'on est plutôt dans un galout relativement plus léger qu'à beaucoup d'époques de la vie du clan Israël. Et donc, arriver à comprendre qu'on est en galout. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié qu'on est en galout. Oublié parce que Ils se sont assimilés en quelque sorte et ils ne sont pas dérangés, ils sont plus dérangés par la situation dans laquelle nous nous trouvons. Bon, si on est suffisamment assimilé, alors on n'est pas dérangé. Par exemple, le fait que personne n'a vécu probablement cette sortie d'Égypte de la même manière que son voisin. En particulier, quand Chazal dit que lors du passage de la mer, qui fait partie de la sortie d'Égypte, les Bnei Israël n'ont pas passé ensemble par le même chemin. Chaque tribu avait son canal. Chaque tribu est sortie à sa manière, donc dans son canal. Ils sont sortis comme ça d'Égypte. J'avais essayé, par exemple, de demander aux gens qui étaient avec nous de dire qu'est-ce qu'ils auraient emporté, eux, dans leur canal personnel, quoi. C'est-à-dire, bon, alors, dans le langage d'aujourd'hui, quel livre tu aurais pris, quelle musique tu aurais pris, quelle nourriture tu aurais pris, quel fruit, quel légume, quel vêtement tu aurais mis, je sais pas. Donc c'était intéressant, tout le monde a participé, et chacun a essayé de se représenter. Donc c'est une façon de se présenter, de dire qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc c'est un jeu intéressant. Mais ça veut dire que chacun a donc vécu la sortie d'Égypte, ça c'est sûr, à sa manière, en tout cas à la manière de sa tribu, donc vraisemblablement à la manière personnelle de chacun. Parce que probablement que chacun a vécu aussi son esclavage de façon spécifique. Donc là aussi, on peut réfléchir, qu'est-ce qui pour moi est considéré, qu'est-ce que moi je considère comme étant le côté d'esclavage dans lequel je suis? Quand tous les matins, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, vous dites tous les matins dans la prière, Shelo Asani Aved. Demandons à Hachem de nous fortifier dans notre condition de non-esclave. Shelo Asani Aved. Baruch, ça veut dire amplifier. On demande à Hachem d'amplifier notre condition de non-esclave. On n'a pas dit libre, parce que libre, c'est comme le problème de. Dans le fameux principe général pour Rabbi Akiva de Ve'ahavta l'raha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il l'a dit en négatif. Il a dit, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Pourquoi il l'a dit en négatif? Parce que c'est beaucoup plus clair et c'est limité. Aime ton prochain comme toi-même, c'est ouvert sur l'infini, quoi. On dit que ne fais pas à l'autre, là on sait. Voilà. Et donc là aussi, on nous parle de demander à Hachem de nous aider à sortir de notre esclavage quelque part. Donc, renforce ma condition de non-esclave. Et donc, si on fait cette bracha, ça veut dire que je sens que je suis encore quelque part esclave. Et on sait que pour nous, la mesure, c'est la mesure de notre non-esclavage, c'est la mesure dans laquelle on peut devenir vraiment serviteur d'Hachem. Parce que si on a un autre maître qu'Hachem, quel que soit le niveau de cette autre maîtrise, eh bien, on n'est pas vraiment serviteur d'Hachem. Donc, c'est clair que, par exemple, quelqu'un qui est entièrement dépendant du regard des autres, il est vachement esclave. Donc, c'est fait pour nous aider. Tout ce qui est raconté dans la Haggadah est fait pour nous aider à prendre conscience de ce que c'était vraiment que cet esclavage. Vous voyez, une des choses, un des moments de l'esclavage, c'est que les Bnei Israël, quand Moshe leur a parlé, ils n'ont pas pu l'entendre. Pourquoi ils ne pouvaient pas l'entendre? Parce que mes kotzer ruach, c'est-à-dire ils avaient le souffle court, c'est-à-dire ils en étaient à chercher leur souffle. Donc, l'homme libre, c'est quelqu'un qui peut parfaitement respirer. On n'a rien qui nous empêche de respirer complètement. Et je crois que les gens qui travaillent la respiration, etc., ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de gens, dont moi, ben, on ne sait pas vraiment respirer. On respire comme ça, alors que. Donc il faut arriver à une amplitude de la respiration beaucoup plus. Et la question de savoir, c'est pourquoi tu ne respires pas normalement? Pourquoi tu ne respires pas complètement? Peut-être que c'est simplement une posture, c'est tu ne te tiens pas bien. Bon. Pas bien dans tes baskets, ça veut dire. Quand on est astreint à faire un travail qu'on n'aime pas, un travail difficile, parce qu'on ne l'aime pas en particulier, ça aussi, ça nous empêche d'entendre. C'est l'autre élément qui a fait que les ministres ne pouvaient pas entendre. Que Moshe leur disait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu entendre parler Moshe qui leur parlait de leur libération. Pas l'entendre. Parce qu'ils sont occupés à chercher leur souffle et qu'ils sont épuisés par le travail, qui est un travail trop difficile. Donc ça, par exemple, ce sont des éléments sur lesquels il faut réfléchir. Parce qu'en fait, ces éléments nous empêchent de devenir vraiment libres, c'est-à-dire d'être vraiment capables de recevoir Hachem, en fait. De recevoir Hachem comme roi, etc. Prendre la mesure de ce que nous sommes par rapport à Hachem. Vous voulez la hauteur, prendre mesure de la hauteur de la chaîne par rapport à nous. Alors, les Chachamim, ils ont jugé que pour réussir cette opération, en quelque sorte, il fallait mettre au point un certain processus. Et le processus, c'est un processus en 15 étapes. Les 15 étapes de Kadesh, Ukhras, Karpas, Yaratz, etc. Et pourquoi 15? On a vu 15 parce que 15, quand on l'écrit en hébreu, 15, ça s'écrit Yud-Heh, et Yud-Heh, c'est un nom divin. D'une part. D'autre part, on avait vu que pour passer d'un niveau au niveau supérieur dans le Beth Amikdash, il y avait 15 marches. Et sur chacune de ces marches, quand les Kohanim Leviim passaient d'un niveau à l'autre, Sur chaque marche, il récitait et chantait un des Shir HaMaalot. Il y a 15 Shir HaMaalot dans les 150 Tehillim de David. 15, enfin, 14 commencent par Shir HaMaalot, et il y en a un qui commence Shir LaMaalot. Enfin bon, il y a 15 Shir HaMaalot. Donc sur chacune des Maalot, sur 15, les degrés, chacune des marches. Donc il y a un chant par marche. Ça veut dire, comme ces chants sont différents, ça veut dire qu'il y a une progression. C'est-à-dire qu'on arrive tout en haut, on passe par un certain ordre. Il y a nous aussi, pour arriver à la libération, pour arriver au summum. C'est quoi le summum? Le summum de la sortie d'Égypte, c'est ce qui est dit, ce qui correspond au. Vous savez, Midrabanan, on boit le soir du Seder 4 coupes de vin. Chacune de ces coupes de vin correspond à un des verbes qui sont utilisés quand Hachem a annoncé qu'il allait nous sortir d'Égypte. Je vais vous sortir d'Égypte, votre Tseti, et ensuite. Je vais vous sauver de la mer, je vais vous libérer, et puis je vais vous prendre comme mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Donc le summum, c'est d'arriver à être le peuple d'Hachem, et qu'Hachem accepte d'être notre Dieu. C'est ça le summum. Alors pour ça, il faut que nous soyons libérés de tout. Puisque je ne peux pas devenir le peuple d'Hachem si je suis aussi le peuple de, par exemple, les Chachamim, ils ont dit, tant qu'on était encore sujet d'Achashverosh à Pourim, on peut pas dire qu'on est le peuple d'Hachem. Alors, si on regarde les premières étapes, on commence par la première étape, c'est Kadesh. Kadesh, ça contient le Kiddush. Le Kiddush du premier soir de Pessah, c'est un Kiddush comme le Kiddush de toutes les fêtes et du Shabbat. D'accord? On fait une bracha, cher, dans Shabbat, Kitchanu b'mitzvotav et tzivanu sur Shabbat. Et là, Asher Bacharvanu, il nous a donné, etc. Et on parle de la sortie d'Égypte. Et ça, on fait ça sur une coupe de vin. Ça, on le fait toujours sur une coupe de vin pour que ça soit plus festif. Le kiddush, c'est le Borei Pragafen, c'est pas le kiddush. Le kiddush, c'est la bracha qui vient après. Mais le Borei Pragafen, c'est parce que pour donner plus de joie, un peu une dimension supplémentaire. On fait ça systématiquement sur une coupe de vin, comme on prend une coupe de vin sous la houppa pour faire les brachot. On n'a pas besoin de. Le vin, il n'a rien à voir là-dedans. Mais on veut donner une dimension festive, alors on fait une bracha, on boit du vin. Disons, si on était français, on ferait kiddush sur le champagne. Bon, parce que. Voilà, c'est ça. Pourquoi ils prennent le champagne et pas un autre vin? J'en sais rien. J'aime pas le champagne, donc bon. Mais c'est comme ça. La fête, pourquoi on prend du champagne? Voilà, c'est le lobby des vins champenois qui a réussi à imposer ce truc-là. C'est pas pourquoi. Donc, on fait kiddush. Mais ce kiddush-là, il a une caractéristique particulière, c'est qu'il est aussi la première des quatre coupes de vin qu'on boit le soir. Donc il faut penser, je fais la mitzvah de kiddush, comme c'est toujours le cas, Yom Tov et Shabbat, mais aussi je bois la première coupe de vin. Et du coup, on va boire en tant que coupe de vin de Bessar, et les gestes boire et manger, par exemple, de la soirée de Pessah, ils se font accouder sur le côté gauche, qui est réminiscent, si vous voulez, du fait que à un moment donné dans l'histoire, les Romains, par exemple, ils mangeaient sur des lits d'apparat. Donc, en fait, moi, j'ai des amis qui ont l'habitude, ils font Pessah sur une table basse et eux, ils sont sur des coussins. J'ai une fois essayé, pas pour Pessah, j'ai essayé de voir ce que ça donnait. J'arrive pas à manger, mon bras est complètement coincé. Je sais pas manger avec, et ni encore moins boire. Déjà comme ça, c'est compliqué de voir. D'accord. Bon, en fait, aujourd'hui, c'est un peu difficile de comprendre pourquoi il faut s'appuyer sur boire à coudée, etc. Personne ne boit à coudée, c'est plutôt dérangeant qu'autre chose. Ben bon, il faut penser, c'est réminiscent d'une attitude de maître, les gens vraiment libres, ils mangent comme ça. Okay. Alors, donc on boit cette première coupe à coudée sur le côté gauche. Le côté gauche, c'est parce que pour des raisons physiologiques, il vaut mieux que ça coule du côté gauche pour ça aille plutôt dehors, plutôt que ça ne. Donc ça, c'est le kiddush, c'est le numéro 1. Numéro 2, je le saute, je reviendrai, je passe au numéro 3. Le 3, donc Kadesh ou Khatz, on se lave les mains, et ensuite Karpas. Alors le Karpas, c'est un truc un peu particulier. Qu'est-ce que c'est? On prend un légume, sur le légume, et on le trempe ou dans le vinaigre ou dans l'eau salée. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, a priori, on peut le prendre comme étant un apéritif. L'apéritif, c'est ce qu'on boit, ou qu'on mange, pour ouvrir l'appétit. On me dirait, pas terrible, ouvrir l'appétit au début du Seder, alors que après, il y a encore bien longtemps, jusqu'à ce qu'on puisse manger. C'est pas vraiment la meilleure des solutions. Mais en fait, c'est pas du tout ouvrir l'appétit pour manger. C'est ouvrir l'appétit à la liberté. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut ouvrir l'appétit à la liberté? Parce que quand on est esclave, on a une mentalité d'esclave et il y a un état d'esclavage dans lequel on peut même pas penser la liberté. Les Bnei Israël, quand on leur a proposé de sortir, d'être libre, franchement dit, ça voulait rien dire. Bon, ça fait longtemps qu'ils étaient esclaves, plusieurs générations. Donc, ça ne voulait strictement rien dire. Donc, il faut ouvrir l'appétit pour la liberté. Alors, la question, c'est pourquoi de manger une pomme de terre, un radis, du persil, du cerfeuil trempé dans l'eau salée, ça ouvre l'appétit à la liberté, il faut beaucoup d'imagination. Alors, l'imagination, elle fonctionne comme ça. Étant donné que on mange un légume, la bracha, c'est Borei Pri Adama. Plus tard, on va manger les fameuses herbes amères. Alors, les herbes amères, on les mange alors qu'on est déjà dans le repas. Puisque les herbes amères, ça se mange après Motsi. On a déjà fait Motsi, donc on est dans le repas. Mais comme ça ne fait pas vraiment partie du repas, alors on doit faire une bracha quand même. Donc la bracha, c'est quoi? Ben, c'est aussi bon, repris à Adama, puisque ce sont des herbes. Mais cette bracha de Borei Pri Adama, on la fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est sommaire sur la bracha qu'on a faite au début du Seder, qu'on a fait la bracha sur le Karpas Borei Pri Adama, on a pensé, je vais aussi acquitter le prochain légume que je vais manger, beaucoup plus tard. C'est tout un problème de savoir est-ce que ça marche ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. On fait, et comme ça, j'aurais fait la bracha La barre vaut aussi sur le prochain légume. OK. Donc, ça veut dire qu'on a, par le biais de la bracha, on a établi un lien entre Carpas et Maror. Or, le Maror, pourquoi est-ce qu'on mange le Maror? Maror, ça veut dire amer. Parce qu'ils nous ont rendu la vie amère. Parce que quand on était esclave, on nous a rendu, les Égyptiens nous ont rendu la vie amère. Et c'est parce que la vie est devenue tellement amère qu'elle était insupportable qu'on s'est mis à crier et que le processus de sortie d'Égypte a commencé. C'est-à-dire, c'était un cri encore, on ne peut même pas dire que c'était pour la liberté, etc. Mais ça a été validé par Hachem comme si c'était déjà un cri pour la liberté. Et c'est ça l'ouverture à la liberté. Le lien par le biais de la bracha avec les herbes amères qui, elles, font penser à la liberté parce qu'elles rappellent pourquoi on avait vraiment besoin de la liberté, parce que c'était devenu insupportable. D'accord? Et donc, c'est un lien assez acrobatique, si vous voulez, entre le Carpas et le Maror pour que, y ait dans le Carpas quelque chose des herbes amères, un lien avec les herbes amères, donc indirectement avec la liberté. Donc c'est ça l'ouverture, l'apéritif pour la liberté. Alors je reviens sur le numéro 2 que j'avais sauté. On s'est lavé les mains. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est lavé les mains? Parce qu'il y a une halakha qui dit que quand on mange quelque chose qui est trempé dans un liquide, on doit se laver les mains. Les Ashkenazim, ils n'ont pas tellement l'habitude de le faire, mais les Sfardim, ils le font, et certains Ashkenazim aussi. C'est-à-dire que quand vous trempez votre croissant dans votre café, normalement, si vous étiez Sfarad, vous devriez faire le Netilat Yadayim d'abord. Pas grave, hein, fait une Netilat Yadayim. Il y a ceux qui disent qu'il faudrait même faire une Netilat Yadayim avec une bracha. Bon, la bracha, c'est un safek, mais tremper, mais se laver les mains, pas de mal. Mais si vous voulez, c'est tellement peu usité chez les Ashkenazim qu'il y a des Haggadot où c'est marqué que celui qui donne le seder, lui, se lave les mains. Les autres ne se lavent pas les mains. Parce que, et comme une des choses qu'on fait pour que les enfants posent des questions, c'est de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, chez les Ashkenazim, d'aller se laver les mains, normalement, si les enfants ne sont pas complètement déjà endormis, ils vont demander, mais pourquoi vous lavez les mains? On ne va pas faire motzi maintenant. D'accord? Mais chez les Sfardim, il n'y a pas de question. Parce que c'est normal, puisqu'on va tremper. Donc, l'idée de se laver les mains pour tremper, c'est cette idée de, il faut une préparation. C'est-à-dire que même pour ouvrir l'appétit, comme pour toute chose, il faut toujours une préparation. Et la préparation, bah, c'est de se mettre en condition de pouvoir faire ce qu'on doit faire. Tu vas faire une opération qui tu trempes, etc. C'est des halakhot de Touma et de Tahara qui viennent, mais voilà. Mais c'est comme ça, c'est une préparation. Laver les mains, le mikvé, tout ça, c'est toujours des préparations. Donc, on est au numéro 3. Le numéro 4, ça s'appelle Yachatz. Ça s'appelle Yachatz, vous entendez dans Yachatz, on entend Chatsi, la moitié. Parce qu'on prend, donc ceux qui ont sur la table trois matzot, je dis ceux qui ont parce qu'il y a deux opinions, il y a une opinion qui dit qu'on met trois matzot sur la table et une autre opinion qui dit qu'on n'en met que deux. Mais la plupart des gens, ils mettent trois. Alors on prend la matza du milieu et on la coupe en deux. On la casse en deux. Mais on la casse pas. C'est presque impossible, mais on la casse pas en deux parties égales, on la casse en une plus petite partie et donc une plus grande partie. La plus grande partie de cette matza cassée, on l'enveloppe dans une serviette et on la met de côté. Certains la mettent sous la nappe, on la met de côté. Je vous dirai après ce qu'on en fait. Et la plus petite moitié, on la remet là où elle était, on la remet entre les deux matzot entières. Et pourquoi est-ce qu'on produit cette demi-matza? Parce que la matza dans la mitzvah, elle est dite lechem oni. Et l'hégémonie, ça veut dire un pain pauvre. Alors, la matza est un pain pauvre parce qu'elle a ni sucre ni sel. Elle est aussi pauvre que possible puisque c'est de l'eau et de la farine. On ne peut pas faire du pain avec moins que ça. Et c'est aussi pauvre, c'est un pain plat, etc. Donc, c'est un pain, oni, c'est pauvre, mais oni, c'est aussi, on répondre. La hanot, c'est aussi répondre. C'est un pain, les matzot, c'est un pain sur lequel on va beaucoup répondre. Mais ensuite, je vais en parler de ça, et ensuite, quand on va faire la bracha, on va manger la matzah. Quand on arrivera à matzah, alors quand on mange la matzah, on fait deux brachot. Une à Motzi Lechem min ha'aretz et une à l'achilat matzah. Shekitchanu b'mitzvotav etzivanu al achilat matzah. Bon, puisqu'on fait la bracha, on fait toujours quand on mange du pain, et puis on fait la bracha spécifique qui est que la mitzvah du soir, de ce soir, une des trois grandes mitzvot de ce soir-là, c'est de manger des matzot. Donc on va manger de la matzah. Et pour que le pain soit vraiment un pain de pauvre, on a fabriqué un morceau. Parce que le pauvre, il n'a pas une matzah, il n'a pas un pain entier. Il a un morceau de pain. Et donc, ce qu'on a fabriqué, c'est un morceau de pain. Et donc, on va faire la bracha. Quand on va faire la bracha, on va le faire éventuellement avec les deux matzot entières. Parce que c'est Yom Tov. Comme pour Shabbat, on met les frères Mishneh, deux pains entiers. Bon. Mais pour Achilat Matzah, pour introduire vraiment l'Achilat Matzah, alors on mange en même temps, on mange aussi de ce morceau de Matzah, qui est le Chémoni. Et donc ça, c'est l'opération qu'on fait, on fabrique la Matzah, le morceau de matzah qu'on va manger au titre de la mitzvah de manger les matzot. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'autre moitié là? Cette autre moitié, on ne va pas l'utiliser jusqu'à l'extrême fin du repas. On a dit le soir du Seder. Il y a trois mitzvot. Il y a la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, la mitzvah de manger la matzah et la mitzvah de manger le korban pessah. Normalement, on doit manger le korban pessah, c'est-à-dire ce fameux agneau pascal qui est complètement grillé, etc., mais qui est un korban. Or, aujourd'hui, on n'a plus de korbanot. Alors, on remplace l'agneau pascal par quelque chose d'autre. La règle générale est que quand on remplace, on fait pas, on remplace pas par quelque chose qui est analogue. Par exemple, si on n'avait pas de étrog, on va pas remplacer par un citron. Il ressemble quand même à un étrog. Non, si on remplace pas du tout, mais si on remplaçait, on remplacerait pas par un citron. Parce que quand on remplace, on va faire quelque chose dont on va dire que symboliquement il remplace, mais on ne veut pas du tout faire une mauvaise approximation et même une bonne approximation de ce qu'on ne peut pas faire. Donc ça veut dire que on aurait pu imaginer que puisqu'on ne peut pas manger le Coran Pessah, on va manger on peut manger je sais pas, des grillades Il y a d'agneau. Bon, parce que bon, ça ressemble à la viande du Comme un Pessah. Non, on mange pas. On mange même pas à cause de ça. On mange pas le soir du Seder des grillades d'agneau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on a à disposition? On a des matzot. Donc, on va prendre cette matza, là, qu'on a mise de côté, et on va la manger en pensant, je la mange en lieu et place du Korban Pessah. Je vais la manger avec les mêmes règles, si vous voulez, que le Korban Pessah, mais aussi les règles de la achilat de la matza, c'est-à-dire on mangera la même quantité de matza pour la picomane, ça s'appelle la picomane. La picomane, ça veut dire dessert. Parce que c'est comme ça se mange tout à la fin. Donc, ça peut s'appeler dessert. Et on va le manger la grosseur d'une olive dans un laps de temps limité. Et puis, ensuite, on va s'interdire de manger quoi que ce soit d'autre après. Comme on s'interdisait de manger quoi que ce soit d'autre après avoir mangé la viande du Korban Pessah, pour garder dans la bouche le goût du Korban Pessah. Donc, d'une certaine manière, nous, on va garder dans la bouche le goût de la matzah qu'on a mangée en dernier. Bon, alors après, halakhiquement, il y en a qui disent que on peut boire de l'eau, éventuellement du thé. Ben ça, vous pouvez demander à votre rabbin ce que vous pouvez boire. On ne peut pas manger en général, mais on peut. Beaucoup disent qu'on peut quand même boire. Alors, jusqu'à quand est-ce qu'on doit garder le goût? Alors, manger le Korban Pessah, comme vous savez, un Korban, c'est quelque chose qui doit être fait, mangé, par exemple, dans un laps de temps défini, en un endroit défini, par des gens définis. Le laps de temps, alors, il y a des Korbanot où on peut manger pendant une journée et une nuit. D'autres, on peut manger 2 journées et une nuit, un jour, une nuit, un jour. Le Korban Pessah, il y a une discussion. Est-ce qu'on doit le manger avant Khatsot, avant la moitié de la nuit, ou avant le matin? Est-ce qu'on a jusqu'au matin pour le manger, ou est-ce qu'on a seulement jusqu'à Khatsot? Khatsot, ça veut dire la mi-journée. En ce moment, la mi-journée, c'est à peu près hein, quelques minutes avant 2 heures du matin, à cause du décalage horaire. La moitié de la nuit, c'est 1h50, pas combien, d'accord, quelque chose comme ça. Vous pouvez regarder dans votre ordinateur. La minuit, c'est la même chose que la mi-journée, c'est 1h50, quelque chose. Donc, ça sera à peu près la même chose, c'est l'heure. Voilà. Donc, il y en a qui disent qu'il faut l'avoir mangé avant 1h52, d'autres qui disent qu'on peut le manger juste à l'aube. Donc, cette limitation, elle vient de la limitation du korban. On a pris cette halakha du korban qu'on a appliquée à Rilat Matzah, parce que la matzah, on pourrait en manger combien on veut, il n'y a pas de limite dans la matzah. Alors, cette matzah, elle n'a pas eu le même traitement que le reste de la matzah. Est-ce que vous vous souvenez, enfin, vous savez évidemment, qu'au début du Seder, on a l'habitude, avant le récit, de prendre le plateau du Seder, surtout les matzot qui sont sur le plateau du Seder, il y en a qui disent pour enlever la viande, éventuellement l'œuf, c'est différent. Enfin, chacun son minhag. Et on soulève le plateau, enfin, les matzot en question, et on dit, ah, lachma aniya, ceci est le pain pauvre, ou le pain du pauvre, de halwa batana que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Et puis on dit, alors, là-dessus, on dit que tout celui qui a faim vient de manger, que tout celui qui a besoin de faire un korban, pour un Pessah, un père Pessah, qui vient le faire avec nous. Et cette année, on est encore esclave, l'année prochaine, on sera libre. Cette année, on est ici, l'année prochaine, on sera dans Yerushalayim. C'est ce qu'on dit. Donc, on présente la matzah comme le pain de l'esclavage. Amatana, qu'ont mangé nos ancêtres, manger le pain que les Égyptiens nous ont donné à manger. Mais la matzah qu'on va manger plus tard, elle est présentée comme la matzah, le pain de la liberté. Et donc le paradoxe, c'est que au début du Seder, la matzah, elle est appelée pain de misère, pain d'esclavage. Et un peu plus, à la fin du récit, du gros morceau du récit, au moment où on mange la matzah, c'est présenté comme la matzah de la liberté. C'est le même pain. Alors, je vous ai déjà raconté, bon, si on veut essayer d'expliquer qu'est-ce qui lui est arrivé, cette matzah, pourquoi elle a, comment elle a fait pour changer. Alors, il y a une halakha qui dit que pendant tout le récit, le numéro 5 dans le projet dans les 15 degrés, c'est le récit. Alors, durant tout le récit, les matzot doivent être découvertes. Découvertes parce que souvent les matzot, elles sont couvertes comme on couvre les chalot, etc. Alors, ça, c'est pendant le récit. Pendant le kiddush, les matzot, elles sont couvertes, obligatoirement, ou elles ne sont pas sur la table. Parce que quand vous avez sur la table du pain et du vin, il y a une hiérarchie. Et normalement, on devrait faire la bracha d'abord sur le pain et après seulement sur le vin. Or, dans le kiddush, on fait le contraire. Shabbat aussi, on fait d'abord kiddush sur le vin. Et ensuite, on mange du pain, on se lave et on mange le pain. Alors, pour que le pain ne voit pas qu'on est en train de lui brûler la politesse, on le couvre. Ou bien, on ne le met pas sur la table. D'autres qui ne mettent pas le chalot sur la table quand on fait kiddush, ils les mettent seulement après. Parce que ce qu'on fait, c'est un peu ridicule. On les met puis on les couvre. Alors, ne les met pas. Et comme ça fait plus joli de mettre les chalot, bon, parce que en plus on court avec quelque chose de joli aujourd'hui, on achète des espèces de petites couvertures brodées, machin, etc., tout joli. Donc ça embellit la table. Et donc les gens ont l'habitude de mettre les chalottes et de les couvrir. On fait la même chose avec les matzot, puisqu'on fait kiddush d'abord avant de manger les matzot. Mais une fois que le kiddush est fait, on découvre les matzot. Elles sont découvertes durant tout le récit, sauf quand on arrive au moment où on boit la deuxième coupe de vin, au moment où on parle de la Géoula, de la libération, on boit une deuxième coupe de vin. À ce moment-là, on a de nouveau le problème. On a toujours du pain devant nous et du vin, et on va faire la bracha sur le vin au lieu de la faire sur le pain. Donc, pour ce juste au moment où on va boire le vin, et on va faire la bracha de Boré Pshagafen sur ce vin-là, on couvre momentanément les matzot, on boit et on les redécouvre. Okay. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le récit qu'on fait, c'est une espèce de bombardement des matzot avec les mots du récit. Et comme dans le récit, la règle est que le récit y va du négatif vers le positif, la matzah aussi, elle va aller du négatif vers le positif grâce au bombardement du récit. Donc ça, c'est ce que moi je dis, vous en faites ce que vous voulez, ce que je raconte à mes enfants. Je ne sais pas ce qu'il faut dire autrement, quoi. Expliquer comment on passe de l'un à l'autre, je trouve que ça va très bien. Moi, ça me plaît. Je vous le dis, maintenant, en fait, si vous avez une autre idée, hein, même si vous avez une idée originale, ça m'intéresse. Il y a peut-être des explications dans certains avers d'autres, je ne sais pas. Ben, c'est quand même frappant. Voilà, donc, on arrive au numéro 5, qui est donc le récit. Donc, il y a le récit. Pourquoi le récit? Alors, vous vous souvenez, quand il ne restait que trois makot à envoyer, avant la maka des sauterelles, les trois dernières, c'est les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés. Oui, c'est les trois dernières makot. À ce moment-là, avant les sauterelles, Hachem parle avec Moshe Rabbeinu et il lui dit, voilà, tout ce que je fais, toutes ces makot, tous ces signes que j'ai manifestés sur l'Égypte, en Égypte, tout ça, je ne les fais que pour que tu le racontes à ton fils et à ton petit-fils. Donc, si vous voulez, c'est très, très important parce que le récit en question, c'est lui qui est essentiel. Ce qu'a dit Hachem à Moshe, c'est ce n'est pas que j'ai fait ce que j'ai fait et maintenant c'est ça l'essentiel et maintenant vous allez le raconter. C'est au contraire. Je n'ai fait ce que j'ai fait que pour que vous ayez quelque chose à raconter. Je veux que vous racontiez comment je me suis moqué de l'Égypte, etc., ce que j'ai fait avec tout ce que j'ai manifesté, tous les signes que j'ai manifestés en Égypte. Et donc de là, cette mitzvah de raconter à ses enfants, c'est une transmission. On a vu déjà qu'Avraham Avinu, il a été choisi parce qu'il est un transmetteur. Le Klal Israël est un transmetteur de l'enseignement de la Torah. On est aussi des transmetteurs à la fin des. On doit aussi transmettre même aux goyim, pas du tout pour en faire des juifs, mais pour qu'ils apprennent à reconnaître Hachem et qu'ils pratiquent les mitzvot des Bnei Noach. Donc, le récit. Alors, dans la Gemara, il y a une discussion. Qu'est-ce qu'on raconte? C'est quoi le récit? Alors, curieusement, c'est une machloket, Rav et Shmuel. Une machloket entre deux grands Amoraïm, la première génération d'Amoraïm. Amoraïm, c'est les maîtres de la Gemara. Rav dit, qu'est-ce qu'on raconte? On raconte Terach et Abraham et l'idolâtrie, etc. Et Shmuel, il dit, on raconte Avadim Aïnou le Pharaon de Mitzray, on raconte la sortie d'Égypte en tant que sortie de l'esclavage. Curieusement, Rav raconte la sortie de l'idolâtrie, si on peut parler comme ça. C'est très étonnant. Hachem, dans les Aseret Hadibrot, il se présente comme celui qui nous a fait sortir de la maison d'esclavage et pas de la maison de l'idolâtrie. Les Bnei Israël, en Égypte, on avait vu, ils ont sérieusement dégringolé et ils sont devenus idolâtres, pratiquaient l'idolâtrie. Parce qu'ils étaient dans un milieu idolâtre et qu'ils ont été entraînés. Et quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient encore idolâtres. La preuve, c'est que quand ils ont franchi la mer, vous vous souvenez, ils sont au bord de la mer, les Égyptiens sont derrière et ils vont les massacrer, ils sont en train de les rattraper, ils vont pas les massacrer, ou éventuellement ils vont les ramener en Égypte comme esclaves. Et Hachem dit, avancez, ils sont entrés dans la mer. Il dit, mais on va être dans la mer? Oui, non, avancez. OK, ils avancent, et quand ils ont eu de l'eau jusqu'au nez, la mer s'est fendue. Oui, mais les Égyptiens aussi, ils entrent dans la mer. Ils sont derrière nous, ils entrent aussi dans la mer. OK, ils entrent dans la mer. Et comme les Bnei Israël étaient devant, quand les Bnei Israël sont remontés, Hachem a donné l'ordre à Moshe, et Moshe a rabattu la mer sur les Égyptiens, qui eux n'étaient pas encore sortis. Ils sont morts noyés. Mais les Bnei Israël, ils n'y croyaient pas. Ils pensaient qu'ils ont dit, mais Comme nous, on est sortis par ici et les Égyptiens sont sortis ailleurs. Il a fallu que Hachem fasse en sorte que les Israélites puissent voir les cadavres des soldats égyptiens morts pour qu'ils le croient. À ce moment-là, ils ont fait confiance. Comment c'est écrit? Vayamin ou Hachem ou Moshe Abdo. Ils ont fait confiance à Hachem et à Moshe, son serviteur. Mais quand Hachem a noyé les Égyptiens, les anges ont crié au scandale. Les anges ont dit, ça veut dire, tu noies ceux-là et tu sauves ceux-là, et ceux-là sont idolâtres et ceux-là aussi sont idolâtres. Donc les anges ne voient pas de différence en ce qui concerne l'idolâtrie entre les Bnei Israël et les Égyptiens. Et Hachem ne va pas donner une explication tellement satisfaisante sur ce plan-là. Ce qui va dire, je sauve ceux-là parce qu'ils vont accepter la Torah. C'est une mauvaise réponse quand on parle d'un jugement. On juge les gens pour ce qu'ils sont à ce moment-là et pas pour ce qu'ils vont devenir. C'est la règle générale. Mais bon. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que les Bnei Israël sont idolâtres. Et donc, la sortie d'Égypte n'est pas vraiment complètement une sortie de l'idolâtrie. Ils seront vraiment sortis quand ils vont accepter la Torah. Parce qu'accepter la Torah, ça veut dire refuser l'idolâtrie. Et ça est le point culminant de la sortie d'Égypte, c'est Matan Torah, c'est le don de la Torah. Donc, on a deux. Alors, il y a une machloket sur le récit, et nous, on dit les deux. Nous, on raconte les deux. On raconte Avadim Aïnou le Pharaon de Mitzrayim. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et Hachem nous en a sortis. Et puis après, on raconte l'histoire de Terach, le père d'Abraham, idolâtre, etc. Et Hachem nous a éclairés, on est sortis de l'idolâtrie et Hachem nous a mis à son service. Bon, je pense que l'idolâtrie, d'une certaine manière, c'est quoi l'idolâtrie? C'est avoir un autre maître que Hachem. Je pensais qu'il y a d'autres maîtres, d'autres pouvoirs que Hachem. Des pouvoirs qu'il faut respecter, il faut honorer, il faut être dans leur bonne grâce, enfin obtenir leur bonne grâce, etc. L'esclavage, c'est aussi avoir un autre maître. Un esclave, c'est quelqu'un qui a un autre maître, il a un maître. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que l'esclavage, c'est une forme faible d'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, ce qui est caractéristique, c'est que on n'est pas vraiment responsable. Parce que les dieux, ils font ce qu'ils veulent avec nous. Les dieux font. Et un esclave, c'est quelqu'un qui est non responsable. L'esclave, il est responsable de rien, il n'est même plus responsable de lui, de lui-même. C'est son maître qui lui dit ce qu'il doit faire. Un évêque ivri, même, il vient avec toute sa famille. Donc la famille, elle est nourrie, logée, blanchie. Et la famille n'est pas esclave. Ni la femme, ni les enfants ne deviennent esclaves, mais ils sont nourris par le maître. Ils habitent avec leur mari, avec le mari qui lui est un esclave. Donc c'est un esclave, c'est un fonctionnaire, quoi. La sécurité du travail. Je n'ai pas dit que le fonctionnaire était un esclave. Il a la sécurité, il n'a pas de problème de chômage, il a à manger, pendant la période où il est esclave, il est tranquille. Il n'a aucune responsabilité. Donc, bon, quelque part, la Torah, elle exige que nous prenions nos responsabilités. On est responsable et on n'est pas responsable seulement de soi-même, on est quasiment responsable du monde. Donc dans ce récit, il y a toutes sortes d'éléments. On a parlé déjà de les Chachamim qui ont étudié la, qui ont parlé de la sortie d'Égypte pendant toute la nuit. On a parlé des quatre fils. La Gemara, dans le récit de en soirée, on fait une différence. La sortie d'Égypte, c'est quand même quelque chose dont on n'arrête pas de parler et on en parle 2 fois par jour. Parce que dans le troisième paragraphe du Shema, on parle de la sortie d'Égypte. Et donc, c'est une obligation de dire 2 fois, au moins 2 fois par jour le Shema, le matin et le soir. Donc, tous les jours, on parle de la sortie d'Égypte. Mais la différence entre la mention de la sortie de l'Égypte dans le Shema, dans le troisième paragraphe du Shema, et la soirée qu'on consacre entièrement au récit de la sortie d'Égypte, il n'y a pas de récit à le soir du quand on dit le Shema, on n'a pas on dit voilà j'aime la sortie d'Égypte, mais on dit on raconte pas la sortie d'Égypte. Néanmoins, donc la Gada, elle rapporte une discussion qui est une discussion de la Gemara sur la différence justement entre les deux. Et là, il y a cette fameuse idée que c'est une machloket Tanaïm, une discussion des Tanaïm. Et Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Elazar ben Azaria, c'était un génie, un jeune génie. C'était un très très grand Talmid Chacham, alors qu'il était encore très jeune. Et il y a eu un moment donné, il y a eu une révolte contre Rabban Gamliel, qui était le Rosh Yeshiva. Il était trop sévère. Et les gens se sont révoltés. Et on a dégommé Rabban Gamliel. Et on aurait dû normalement nommer celui qui était plus grand que Rabban Gamliel en vérité, mais qui n'était pas de la famille, pas de la bonne famille, qui était c'est Rabbi Yoshua. Mais c'était, on pensait ça c'est quand même trop gros pour Rabban Gamliel, on le dégomme et on met à sa place son concurrent en quelque sorte. Alors on a décidé de nommer Rabbi Elazar ben Azaria, il est devenu Roche du Sanhedrin, il est devenu, c'est lui le maître. C'est lui qui dit, Are Anik ben Shimim Shana, j'ai l'air d'avoir 70 ans parce qu'on dit que la nuit où il a été nommé, il a blanchi tellement. Il a été secoué par la responsabilité qui lui tombait sur les épaules, qu'il a complètement blanchi. Il a dit, j'ai l'air d'avoir 70 ans. Il était très, très jeune. C'est lui qui dit, moi, je pensais qu'il faut dire le troisième paragraphe du Shema. S'il y avait une discussion pour, est-ce que le soir, il faut dire le troisième paragraphe du Shema? Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le troisième paragraphe du Shema? Il y a deux choses. Il y a la mitzvah de Tzitzit et il y a la mention de la sortie d'Égypte. Les Tzitzit, ça se met seulement sur les vêtements de jour. C'est marqué Uriitem Moto. Vous le verrez, vous verrez les Tzitziot et vous vous souviendrez des mitzvot. Donc, on met les Tzitzit seulement à un vêtement de jour. Un vêtement de nuit, même s'il a 4 coins. On met pas de tzitzit. Donc le soir, on va pas mentionner la mitzvah de tzitzit puisque elle est pas concernée. Donc toute la raison, c'est est-ce qu'il faut dire le troisième paragraphe? À quel titre on le dirait? Au titre de la sortie d'Égypte. Et ça, la discussion. Lui, Ben Azaria, il a dit, moi j'aurais bien voulu que je voulais qu'on dise le troisième, mais je n'ai pas trouvé d'argument pour convaincre mes collègues. C'était en discussion. Est-ce que le soir, on dit seulement les deux premiers paragraphes et pas le troisième? Et lui, il voulait qu'on passe au vote, mais il n'a pas trouvé d'argument. Hachelarcha Ben Zoma, il y a un autre collègue qui, lui, a été Doresh. Il a trouvé un passouk avec lequel il a réussi à montrer qu'il fallait mentionner la sortie d'Égypte la nuit aussi. Et du coup, on va venir le troisième paragraphe du schéma, c'est ce que nous faisons. Et donc la question, donc la Gemara, la Haggadah, elle rapporte un morceau de Gemara, le morceau de Gemara qui traite de ce point-là. Et là-bas, on discute et il y a ce Benzoma qui lui dit, parce que c'est écrit dans le passouk, que tu te souviendras de la sortie d'Égypte, Kol Yemei Chayecha, tous les jours de ta vie. Alors la Gemara, elle dit, si on avait dit, tu te souviendras de la sortie d'Égypte, les jours de ta vie, on aurait su qu'il faut le dire tous les jours. Le mot colle, tous les jours, il est en trop, le mot tout. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce mot qui est en trop pour qu'il soit pas en trop? On apprend que, pas seulement les jours, mais aussi les nuits. D'accord? Donc, c'est ça l'argument de Benzoma pour dire qu'il faut aussi se souvenir de la sortie d'Égypte la nuit. Et donc, il faut dire le troisième point. Et les Chachamim qui n'étaient pas d'accord, mais qui finalement, ça a quand même passé, eux, qu'est-ce qu'ils font avec ce verset? Ils disaient que, Kol Yemei Chayecha, j'aurais dit, tu dois en parler dans ce monde-ci, dans le jour de ta vie, quoi. Et Kol Yemei Chayecha, c'est la vie d'Imot HaMashiach. Au temps messianique, il faudra encore mentionner la sortie d'Égypte. Parce que c'est la grande question. La sortie d'Égypte, c'est considéré comme une petite lumière, en fait, par rapport à la sortie, à la fin de l'histoire, qui va être un soleil. Et donc la question, c'est est-ce qu'on allume une petite lumière quand on est en plein soleil? Ça sert à rien, la petite bougie. Alors, le Chachamim, donc on a appris que pas du tout. Même quand on aura le grand soleil, il faudra se souvenir de la sortie d'Égypte. C'était un petit soleil. Donc ça, c'est la discussion qui est ramenée dans la Haggadah de Pessah, justement pour montrer l'importance de la sortie d'Égypte. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit? La sortie d'Égypte, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte? Lors de la sortie d'Égypte, c'était la nuit, on est sorti la nuit, enfin, on a été libéré la nuit, c'était la nuit que Hachem a tué tous les premiers-nés, mais on y voyait comme en plein jour. Donc, l'idée, c'est, la sortie d'Égypte, c'est le jour par rapport aux ténèbres que représente l'esclavage. L'esclavage, c'est les ténèbres, c'est la nuit, et la sortie, ben, c'est le jour. Donc, pourquoi mentionner ou comment on peut mentionner le jour en pleine nuit? Tous les jours de la semaine et de Shabbat, toutes les nuits, on va dire le Kriyat Shema du soir, et tu vas mentionner la sortie d'Égypte la nuit, c'est un peu paradoxal. En d'autres termes, ça veut dire, est-ce qu'on mentionne la sortie d'Égypte à Auschwitz? Est-ce que les Juifs qui ont dit Kriyat Shema, est-ce qu'ils pouvaient penser la sortie d'Égypte alors qu'ils étaient dans les ténèbres d'Auschwitz? Est-ce que dans les pogroms, est-ce qu'on mentionne pendant les pogroms, dans les souffrances, est-ce qu'on mentionne la sortie d'Égypte? Ça a l'air contradictoire. Et la réponse, c'est oui. Ils disent oui, il faut toujours. Il y a toujours l'espoir, il y a toujours la possibilité. C'est fondamental. C'est pour ça qu'on dit, après le chemin du soir, on dit Hashem Elokechem, Emet ve'emouna. Emet et Emouna, confiance. La nuit, il faut faire confiance. La nuit, c'est la nuit. C'est quand bon, on a l'impression que c'est la nuit, Hashem nous abandonne un peu. Alors, il faut faire confiance. C'est le moment de la confiance. Confiance. Le matin. On dit Emet Veyatsib. ça veut dire c'est debout, c'est le soleil, quoi. Donc, le soir du Seder, on mentionne la différence qu'il y a justement entre la mention de la sortie d'Égypte de façon quotidienne, même 2 fois par jour, et la mention de la sortie d'Égypte le soir du Seder. Sur le Seder, on doit se considérer comme si on était sorti nous-mêmes d'Égypte. Ça, c'est le récit, donc, qui peut durer aussi longtemps qu'on veut, qu'on peut, quoi. Alors, la limite, ça va être, si tu veux absolument manger le kezaïd d'Afikoman avant Hatsot, ben, tu es obligé de raccourcir ton récit. Des fois, il faut même le raccourcir si on veut finir avant l'aube, parce que, pas si on a beaucoup de monde et si ça discute sérieusement, la sortie d'Égypte et tout, ben, ça peut durer très longtemps. Ben, eux, ils ont bien parlé des Chachamim, ils en ont parlé jusqu'au matin. Un peu paradoxal, là, dans cette histoire où les Chachamim ont passé toute la nuit à discuter, c'est que leurs élèves n'étaient pas avec eux. Les élèves sont venus le matin, les réveiller, leur dire, enfin, les réveiller, leur dire, voilà, on peut imaginer qu'ils étaient éventuellement, c'est l'époque de l'occupation romaine, et le leader de la lutte contre les Romains, c'était Rabbi Akiva. Et tout le monde était chez Rabbi Akiva. On peut penser qu'ils étaient dans un bunker ou ils étaient dans une caverne cachée, quoi, pour que les Romains ne les attrapent pas. Et donc, si ça se trouve, eux, ils n'ont pas vu le soleil commencer, enfin, l'aube se lever. Donc, voilà, c'est pour ça que les élèves sont venus leur dire, voilà, c'est fini. Il n'y a plus de mitzvah de raconter, parce que c'est plus la nuit. Au petit déjeuner, il n'y a plus de mitzvah de raconter. Tu peux raconter, on peut raconter ce soir, demain, etc. Mais la mitzvah de raconter, elle va au maximum jusqu'à l'aube. C'est-à-dire, tant qu'on peut manger le Korban Pessah, alors il y a le mitzvah de raconter. Alors, une fois qu'on est Maguide, après Maguide, il vient de nouveau un lavage des mains, mais cette fois-ci le lavage des mains pour manger du pain. Bon, Maguide, Rortso. Ensuite, Motsi et Matza. On va ensemble. On va faire Motsi. Je vous ai dit, il y a deux brachot sur la consommation des Matzot. Ensuite, il y a Maror. Ensuite, il y a Maror avec la bracha. Achilat Maror, on ne fait pas Borei Pri Adama parce qu'on a déjà fait, mais à Achilat Maror, il faut faire la bracha de la mitzvah de manger du Maror. Et ensuite, il y a comme la mitzvah, c'était de manger le Korban Pessah avec les matzot sur les herbes amères. Et Hillel, il avait l'habitude de faire un sandwich. Un sandwich, lui, il avait encore de la viande du Korban Pessah, mais nous, notre sandwich, c'est seulement matzah et maror. Donc, on mange en même temps la matzah et le maror. Donc, ça veut dire on mange en même temps le pain de la liberté et les herbes amères qui rappellent l'esclavage. D'une certaine manière, tu ne peux pas prendre vraiment conscience de ce que c'est que la liberté si tu n'as pas vraiment clairement dans la tête que c'est que l'esclavage, l'absence de liberté. Quand tu le prends en même temps, alors tu comprends, pour bien comprendre ce que c'est que la liberté, il faut avoir une idée très claire et très présente de ce que c'est que la non-liberté. Donc, la lumière, elle ne se voit que par rapport à l'obscurité. Si tout est lumineux, on ne voit rien du tout. Donc, ça, c'est le. Ça s'appelle Korer, c'est le sandwich. Et ensuite, un des moments du Seder, c'est Shulchan Aruch. C'est le repas de la fête fait partie du processus des 15 niveaux. Donc il y a un repas de fête. Il y a dans ce repas, en général, les gens, ils ont les traditions. Qu'est-ce qu'on mange ce soir-là, etc. Et ensuite, bon, alors, ensuite, il va falloir faire Birkat Hamazon. Mais avant cela, avant Birkat Hamazon, il va falloir manger la ficomane. Bon, puisque c'est de la matzah, donc on est obligé de la manger dans le repas, puisque si on fait Birkat Hamazon, pour manger la matzah de la ficomane, il faudrait se relaver les mains et refaire la bracha. Donc on mange, avant Birkat Hamazon, on va manger la ficomane. C'est-à-dire la matzah qu'on avait mise de côté, on va en manger de nouveau, une grosseur d'une olive, etc. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à un moment donné dans le récit, il y a, quand on arrive vers, ça monte vers la bracha de la liberté, le deuxième, je vous dis, la deuxième coupe de vin, c'est une bracha, on fait en même temps une bracha sur la Géoula, sur la libération. Donc il y a la joie, et du coup, on dit les deux premiers paragraphes du Hallel. Hallel, c'est donc cette sélection de certains psaumes de David qui sont l'expression de la joie. Il s'appelle Hallel. Hallel, c'est construit sur Hallel, ça veut dire louer. Ce sont des louanges. Alors, on a donc dit une partie du, la moitié du, une partie du Hallel avant le repas. Et ensuite, après Birkat Hamazon, on va continuer le Hallel. Alors, le troisième verre, on le boit avec le Birkat Hamazon. Normalement, quand on fait Birkat Hamazon, surtout si on a Zimoun, on a l'habitude de faire Birkat Hamazon avec un verre de vin. Ce verre de vin, qui est un verre de vin pour le Birkat Hamazon, il est aussi le troisième des quatre, la troisième des quatre coupes de vin qu'on boit ce soir-là. Alors ensuite, on va chanter le Hallel, un peu plus que le Hallel, jusqu'à arriver à la quatrième coupe, summum, quoi, je vous l'ai dit, celle qui correspond à je vous prendrai comme mon peuple et je serai votre Dieu. Et ensuite, il vient le dernier numéro, le 15, s'appelle Nirtsa. Nirtsa, ça veut dire l'agrément, ça veut dire on demande à Hachem d'agréer tout ce qu'on a fait. Un peu ce qu'on fait dans la Shemoneh Esrei aussi, après toutes les demandes, on demande à Hachem Retsé, agréer. Agréer ce qu'on a demandé, quoi. Agréer notre prière. Là aussi, il faut demander l'agrément à Hachem. Ce n'est pas évident. Hachem va agréer ce qu'on a fait. Et donc, Nirtsa. Nirtsa, c'est le moment où on dit Chassan Sidur Pessah. Alors, il y a eu, à la fin, il y a eu des chants supplémentaires. Hadgadia, Miodéa, chacun, bon. Il y a des minagim de chanter ceci, cela. Voilà, ça c'est les 15. Certains ont le minag de dire le shirashirim aussi. Après la soirée, après ils disent shirashirim, qui est quand même, shirashirim est lié à Pessah, parce que c'est un chant d'amour, et toute manière, on a l'habitude de dire de lire Shirashirim au Shabbat pour la Moed aussi à la Shoul. Sauf un mitzvot parce que ils lisent pas.
Donc, 14.
Ah, j'en ai oublié un.
Là, quand on regarde par là, surtout 14. Kadesh, Ufas.
Kadesh, Ukhats, Kapas, Yachats, Magid, Rortso,
Oui, c'est matin.
Motsi, Matzah. Deux, oui. Parce qu'il y a deux brachot. Par exemple, nous, on a l'habitude, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font comme ça. C'est-à-dire, avant de commencer, on chante les 15, on énonce les 15, et puis après, à chaque étape, on annonce l'étape, mais après, on énonce l'étape en répétant celle qu'on a déjà faite. C'est-à-dire, quand on est au numéro 4, on va dire 1, 2, 3, 4. Et à 7, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, c'est une façon de mettre en avant qu'il y a 15 étapes.